Cité Culture, une émission proposée et présentée par Jacques Magnol, du lundi au vendredi, de 16h à 17h.
Aujourd'hui, nous allons parler de Robert Hénard. Nous avions parlé de son exposition qui a lieu au Muséum d'Histoire Naturelle et également de l'ouvrage qui a été publié au sujet du paysage genevois avec Gilles Mühlhauser, avec les illustrations donc de Robert Hénard, principalement des aquarelles. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Marie Pluyénard et Pierre Hénard. Bonjour.
Bonjour.
Vis-à-vis des différentes expositions qui ont lieu actuellement, c'est pour le centenaire de sa naissance.
Exactement.
Comment aurait-il vu toutes ces manifestations pendant un certain temps? Il était un petit peu difficile d'être peintre naturaliste ou animalier.
Ça n'a jamais été vraiment difficile pour lui d'être reconnu par un public qui était d'ailleurs très large, mais c'est venu essentiellement du fait qu'il pratiquait un art très démocratique, qui est en fait la gravure sur bois, c'est-à-dire un art très exigeant, parce qu'il s'agit de tailler son bois, de le graver, de le sculpter comme il savait le faire, pour obtenir des images qui correspondaient à ce qu'il avait vu, exactement ce qu'il avait vu. Mais là-dedans, chacun pouvait s'y reconnaître, chacun pouvait retrouver l'impression qu'il avait eue ou qu'il aurait eue s'il avait fait les mêmes observations. Puis surtout, chacun pouvait les acheter, parce que quand vous faites 50 gravures à 80 francs au prix qu'il a pratiqué pendant des dizaines d'années, vous avez à ce moment-là 50 amateurs qui sont tout à fait disposés à sortir les 80 francs correspondants, tandis que si vous faites qu'une seule gravure à 4000 francs, alors c'est l'amateur qui va venir, piloté par les galeristes et les critiques d'art, et qui va descendre de sa Jag ou de sa Rolls, ou en se disant « je vais trouver ce jeune homme parce que c'est un bon placement que je fais, il est coté et sa cote va monter ». Pas du tout, lui c'était un art démocratique et de ce fait on a eu les clients qui venaient acheter non pas en galerie mais à la maison, une succession de personnages tous plus savourés et représentatifs les uns que les autres, que de absolument toutes les couches, pour pas dire les classes puisqu'on n'en est plus à l'aide de deux classes et encore, toutes les couches de la population. Alors, de l'ouvrier au médecin, en passant par l'instituteur et le fonctionnaire, le paysan et le bûcheron et le chasseur, tout le monde a passé chez nous. C'est-à-dire que ça a été un contact merveilleux. Il a eu un nombre de clients, donc d'amateurs, vraiment extraordinaire.
Alors, rappelons brièvement, il est né en 1906 et il était de formation...
Alors, il est parfaitement autodidacte. Il n'a aucune formation à part l'école primaire et encore... son père qui détestait l'école, en tout cas qu'il avait en piètre estime, quoi qu'il fasse par la suite, il fût par la suite devenu professeur de dessin aux Beaux-Arts. Son père avait trouvé que médicalement il méritait un certificat médical expliquant qu'il avait des difficultés respiratoires qu'il devait le mettre au grand air le plus souvent possible, ce qui fait qu'il a quitté l'école en fait à 12 ans. Donc c'est l'autodidacte complet, mais il a énormément appris. Contrairement à ceux qui font une fois une école et puis qu'après, qu'une fois qu'ils sont au bout, ont l'impression qu'ils savent tout, lui, il n'a jamais cessé d'apprendre de toute sa vie. Et là, il finit par c'est même pas fini, non. Il a passé, entre autres, 50 ans après avoir quitté l'école, par se voir décerner le grade de docteur honoris causa de la faculté des sciences de l'université de Genève.
Alors, je comprends maintenant pourquoi j'ai pu lire dans certaines biographies qu'il était de formation scientifique, mais c'était donc postérieur.
Ouais, c'était une reconnaissance a posteriori. Il l'a obtenu vraiment pour le mérite et non pas pour avoir simplement répondu aux critères qui sont suffisants pour de quelconques études supérieures.
Alors, ses parents étaient professeurs.
De dessin.
De dessin.
Ouais.
C'est par ce biais-là qu'il a d'abord appris son art.
Bah, il est tombé dans la soupe donc là-dedans depuis tout petit parce que ses parents travaillaient beaucoup à la maison à l'époque où il était petit et il faisait beaucoup de travaux sur commande. Il y avait la table à dessin, il y avait le papier, il y avait tout. Et sous la table à dessin de ses parents, il dessinait déjà avec des allumettes brûlées sur des bouts de papier. Donc en fait, il était dans le coup depuis toujours. Et puis il y a aussi, c'est quand même. Il y a une hérédité chargée de ce côté-là, parce que son père était devenu artiste dès sa jeunesse. Il dessinait déjà quand il était écolier, et puis lui, il a fait la même chose que son père. Il a non seulement poursuivi son don et sa motivation, mais il a encore appris de son père la technique. qui est nécessaire, sans lequel un don n'est rien qu'une sale manie, comme dirait l'autre. Et il a en fait englobé tout ça avec un potentiel de travail absolument extraordinaire qui tient aussi à son rythme de vie et puis à sa capacité vitale, qui était une capacité physiologique exceptionnelle. À la manière de résister par exemple aux intempéries et aux adversités du milieu, il avait une résistance physique qui était un peu comparable à celle de Mike Horn, mais bon, moins spectaculaire.
Et ensuite, donc, il a aimé tout de suite travailler sur des sujets d'animaux, sur la nature.
Bah là, toi qui as habité la commune où il était enfant, tu peux dire que...
Il parle de Bernay, donc.
Ouais, non, alors non, ça c'est plus compliqué. Ça a commencé par la ville, parce qu'en ville, il a, pour lui, commencé par apprécier les animaux qu'il pouvait voir en ville. Un des spectacles, d'ailleurs, citadins, pour voir des animaux, c'est un spectacle annuel, c'est la ménagerie du Cirque Ney. Il y a fait des dessins, mais il a vu aussi, par la suite, un des animaux qu'il a vu à la campagne.
Tout à fait. Il allait en vacances avec ses parents à Huy. Et il nous racontait plus tard qu'il se couchait dans l'herbe pour voir passer les insectes. Je crois que maintenant, ce serait un travail de plus longue patience, mais il se passionnait pour tout ce qui bougeait. Mais quand il a cherché à voir des bêtes un peu plus grandes et moins connues, il a cherché des renseignements. Il a été dans les musées où on lui a donné des dimensions précises et des choses qui n'étaient pas du tout utiles pour aller dans le terrain. Et pour aller dans le terrain, il y avait les livres des chasseurs qui expliquaient comment on pouvait tuer l'animal au bon moment pour qu'il soit bon à manger. Et c'était de nouveau pas ce qu'il cherchait. Donc c'est ce qui l'a amené à noter tout ce qu'il trouvait comme renseignement et son côté partageux, le plaisir qu'il avait d'expliquer ce qu'il aimait, de montrer aux autres ce qu'il aimait, l'a amené à écrire un livre précis qu'il a toujours amélioré et enrichi de nouvelles anecdotes qui sont les mammifères sauvages d'Europe. Et là, le côté peut-être le côté très précis du Jurassien, d'une famille qui pouvait être aussi d'horloger, et puis le côté amoureux de l'esthétique fait qu'il avait une vision très complète de ce qui se passait devant lui et qu'il essayait de le restituer toujours le plus précisément possible, sans rien changer, parce qu'il voulait vraiment partager avec les autres le bonheur qu'il avait eu, et pas créer un bonheur artificiel qui n'aurait été qu'à lui.
Donc Marie Pluguenard, est-ce qu'il menait les deux travaux de front, c'est-à-dire d'un côté le dessin, la peinture de la nature, et en même temps des livres sur lesquels il décrivait les animaux?
Alors, il menait absolument tout de front. D'une journée, il faisait 1000 choses. Il en riait des fois, il disait 1000 métiers, 1000 misères. Mais non, c'était des métiers qu'il utilisait et qu'il connaissait bien. Mais par exemple, je crois pas qu'il aurait écrit quelque chose s'il n'avait pas eu quelque chose à dire. C'est pas du tout l'homme qui se disait, tiens, si j'étais écrivain, sur quoi est-ce que je pourrais bien écrire? Il a écrit parce qu'il voulait transmettre. Ce qu'il avait envie il avait envie de partager, d'expliquer aux autres, et il savait que s'il était seul dans son petit bonheur, dans son coin, il aurait personne pour protéger ce petit bonheur-là.
Et il étudiait principalement, peut-être 80% dans la nature et très peu dans la bibliothèque, ou est-ce qu'il partageait aussi son temps à faire des recherches, Pierre Hénard?
Non, là, en fait, il y a un partage du temps qui ne pourrait être fait que maintenant qu'il est décédé, hein, mais comme ça s'est mélangé, ça a été extraordinairement différent, suivant les périodes d'observation qu'il a faites dans tel ou tel but. Ce qui l'a amené, en fait, à bien fréquenter la nature, c'était le contact avec les paysans de montagne. C'est dans les régions du Chablais vaudois qu'il a fait ses premières grandes courses de montagne et qu'il a appris, en fait, à fréquenter la nature. Et puis ensuite, il a trouvé dans la nature un lieu d'observation extraordinaire où il a vu les animaux. Puis comme il est chasseur, en fait, hein, et chasseur, mais chasseur au crayon. Et pour lui, bien observer une bête, jamais chasser. bien observer une bête. Oui, il a tiré une fois un pinson à l'arc quand il était tout jeune, et puis il a trouvé ça tellement décevant qu'il a préféré posséder la bête en l'observant, en la dessinant. Et pour finir, il dit, quand il avait bien observé, bien dessiné une bête, il se disait, je l'ai eu. La différence, c'est que avec le chasseur, c'est que lui, une fois qu'il avait eu sa bête, la bête, elle était toujours vivante, elle continuait à être sous ses yeux, à être observable. Il a accumulé une quantité d'observations sur le vif qui correspondait à des observations de certains bons chasseurs, de certains bons braconniers avec lesquels il a été très ami, mais qui alors tranchait complètement avec ce qui se copiait sur les mœurs des animaux en liberté, très peu connu, qui se copiait depuis Pline l'Ancien, religieusement de siècle en siècle, avec toutes sortes de bêtises qui datent de l'Antiquité. Et lui avait des choses, qui a des choses vécues, vivantes à dire, et c'est ce qui fait l'originalité et la valeur de ces mammifères sauvages d'Europe qui ont été publiés pour première édition 1948 et qui sont réédités régulièrement à ce jour, qui sont toujours en ouvrage de référence par le contact qu'il avait. Alors, ni chasseur qui tue, donc qui arrête l'observation, ni le scientifique qui prélève, qui emmène au laboratoire et qui analyse, et qui arrête également l'observation. Lui, il continue à observer, donc de ce contact avec l'animal vivant, il est vraiment celui dont se réclament tous les éthologistes maintenant, qui se mettent à étudier le comportement, le mœurs de l'animal pour l'expliquer, alors qu'avant on se contentait d'avoir des données anatomiques et physiologiques.
Et il a commencé très tôt à graver, puisqu'au départ donc c'était du dessin, et ensuite il a réalisé ses gravures sur bois que lui imprimait, et je crois qu'il a inventé un nouveau système de gravure.
Ouais, alors en effet il a gravé d'une façon classique très tôt. À 10 ans il faisait sa première gravure qui était en noir et blanc, comme celle qu'on fait au lino, c'était sur bois, mais comme celle que font les écoliers au lino à l'école. Mais après, alors il a d'une part étudié la sculpture sur bois, parce qu'il aimait bien le bois comme matériau qui, à la fois, qui résiste mais qui est vivant. Et la forme de l'animal qu'il aimait beaucoup, parce que c'était un plotteur, ça se voyait, il avait encore au bout des doigts ces petites pelotes qu'on a au bout des doigts des nourrissons. C'est parmi les caractères infantiles qui lui sont restés toute sa vie. C'était en plus une peau cireuse qui résistait très bien en fait aux intempéries. Et puis cette petite pointe au bout de la lèvre supérieure, au centre de la lèvre supérieure qu'on observe chez les nourrissons. Donc il a gardé quelque chose, un contact très sensuel avec la nature, et qui est le fait qu'il a appris la sculpture sur bois. Puis il a transposé sa méthode de sculpture sur bois à la gravure sur bois pour obtenir quelque chose qui ne soit pas du noir et blanc comme à la gravure sur bois, mais entre le noir et le blanc, tous les intermédiaires du plus foncé au plus clair qu'il obtenait en sculptant, en enlevant plus ou moins de bois avec ses outils de sculpteur, et non pas en les gravant avec des burins de graveur, avec des échoppes de graveur. Et tout ceci en couleur encore.
Donc c'est cette délicatesse qu'il a apportée à la gravure.
Ouais, et puis qu'il a amené aussi à faire de la gravure, parce que la gravure sur bois en couleur, mais il a eu deux grands exemples, n'est-ce pas, ma sœur, qui l'a suivi toute sa vie, deux grands modèles d'inspiration. Si tu me laisses le champ libre,
oui,
alors je continue.
Je continue.
Le premier et le plus ancien, c'est l'art paléolithique, c'est Altamira, c'est Lascaux. Magnifiques œuvres en couleur. Et puis, ce sont les gravures japonaises, enfin, pas celles que l'on fait voir aux jeunes demoiselles avec un verre de Porto. Non, mais des graveurs naturalistes animaliers japonais, comme Kainan, par exemple, très peu connu, mais extraordinaire. Et puis là, il a eu l'ambition de faire de l'image en couleur. Et pour faire de l'image en couleur, il a fait donc une technique de séparation de couleurs, une planche par couleur, mais pas par tache de couleur qui apparaît sur le papier. Mais quelles sont les couleurs nécessaires pour que certaines apparaissant toutes seules, d'autres en superposition entre elles, donnent pour finir l'image à la fin, la première image que j'ai vue, et dans son degré de fraîcheur, de la fleur de rétine, dans son degré précis d'imprécision. Il y avait un travail de sélection de couleurs qu'il faisait mentalement, une rigueur implacable, mais il tenait absolument à ce que l'image qu'il avait vue passe par cette filtration mentale. Combien de couleurs me faut-il? Par le travail de graver, de sculpter le bois pour obtenir tous les modelés nécessaires. En fin de compte, arriver après X tirages d'essais à la possibilité de faire un tirage définitif et sortir ses gravures à quelques dizaines d'exemplaires. Et comme ça, il était content. C'est comme ça qu'avait abouti son observation. Il aurait pu le faire tout de suite à l'aquarelle, au crayon de couleur. Il avait fait beaucoup d'aquarelles, sont très spontanées, très immédiates, des paysages magnifiques. visible en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle, d'ailleurs, entre autres, choses qui sont visibles dans cette exposition très originale. Mais il fallait que ça passe par ce processus analytique implacable et d'une précision que ma sœur, tu le rappelais, hein, qui était une sorte d'exigence mentale et une capacité, un désir de précision qui pour arriver au degré précis d'imprécision de son image, de son observation, qui ne faisait pas peur à quelqu'un qui descend des paysans jurassiens, des paysans horlogers jurassiens.
Et à l'âge de 20 ans, il était déjà suffisamment connu pour pouvoir vendre ses gravures.
Il commençait à l'être. Il a fait ses premières gravures à cette époque-là, mais les débuts ont été très, très modestes. La femme dont il est tombé amoureux à 15 ans, il l'a épousée à 22. Ils ont pu commencer à vivre ensemble à ce moment-là, mais ils descendaient de Confignon, où ils s'étaient établis, chez le père Vinclair, à côté de l'église, où je suis né. Ils descendaient de Confignon à vélo pour vendre une gravure, 5 francs à l'époque, avant-guerre, ce qui était beaucoup, ça ferait 100 francs maintenant, mais enfin quand même. Et puis, ma mère était connue pour assurer, en fait, l'indépendance et la liberté du ménage en étant extrêmement peu exigeante et même très, très débrouillarde, telle sorte qu'elle était approchée avec admiration par les dames de la bonne société genevoise qui venaient la trouver en disant « Mais madame Hénard, vous êtes admirable !»« Ah, se disait-elle, que va-t-on me dire ?»« Il paraît que vous, pour votre ménage, vous n'avez besoin que de 60 francs par mois.
» Nous avons parlé de la manière dont il a commencé à travailler, mais ce fut également un philosophe, comme on pourrait aussi dire un écologiste avant l'heure, qui s'est battu, je crois, pour les animaux.
Non seulement pour les animaux, mais également pour les milieux naturels, pour les paysages, en fait pour la nature, au sens tout à fait large du terme.
Il a aussi influencé des écologistes connus, comme Antoine Bechter.
Ce serait très bien maintenant... s'il l'avait vraiment
Ou alors ils s'en sont motivés, inspirés.
Ils s'en sont inspirés. Il y a énormément de jeunes à l'heure actuelle qui s'en remettent à lui et qui disent, comme les jeunes artistes disent, on a tous un père en commun, c'est Robert Hénard, on est tous nés, on a tous un père professionnel. Eh bien là, il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui se réclament de sa pensée. Et l'écologie a pris maintenant une ampleur qui le réjouirait, qui le réjouissait déjà, puisqu'il n'y a que quelques années qu'il est mort, d'une façon évidemment extrêmement satisfaisante, mais dont il se distançait toujours, parce qu'en fait, il a toujours une longueur d'avance dans la mesure où il voulait que non seulement l'homme soit en fait un animal qui gère son milieu d'une façon compatible avec lui-même, donc qui gère son milieu d'une façon correcte, mais par-dessus le marché, qui le gère de telle sorte qu'il laisse une large place à la nature sauvage, à côté de son milieu humain, à lui. Il s'agit donc pas seulement d'être propre sur soi et propre autour de soi, et puis de conserver un air pur, une terre propre et une mer limpide, mais il s'agit aussi d'avoir à côté de soi de la nature sauvage.
Patricia ?
A-t-il eu une activité politique en rapport avec l'écologie, pour prôner l'écologie ?
Il a eu, pas d'activité politique non, mais il a inspiré beaucoup de choses qui se sont dites et faites à partir du moment où l'écologie est devenue un mouvement politique identifié. Mais auparavant, bien sûr, il a inspiré énormément de réflexion, en fait, de prise de position et qui ont des effets maintenant absolument visibles, mais sans se démarquant toujours du fait que tant qu'on pensait qu'à l'homme et à la conduite correcte que l'homme pourrait avoir dans le monde pour avoir un environnement propre et durable, il fallait aussi qu'on laisse à côté de ça de la place à la nature. Donc de ce côté-là, il y a une limitation de l'homme en soi, que l'homme doit absolument se décider à s'imposer, qu'il a prôné comme une condition sans laquelle sine qua non.
Et quelles ont été ses actions contre l'exploitation des montagnes ou de la plaine ?
Il s'est surtout exprimé. Alors, ses actions, il l'a résumé, par exemple, en ce qui concerne la protection de la nature, il l'a très joliment dit, on le verra justement à l'occasion de la réunion d'automne de Pro Natura Genève, il a très, très joliment dit, je crois que tu te rappelles l'expression exacte, ma sœur, il a très joliment dit, comme je n'ai pas de moyens pour proposer de moyens, je n'ai pas suffisamment de moyens financiers, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des gravures pour cela. Et par exemple, il a imprimé une gravure qui était distribuée gratuitement à chaque membre de la protection de la nature genevoise pendant 30 ans au moins, sinon plus. Et puis alors, à part cela, il a pris position, il s'est exprimé sans avoir aucune appartenance politique ni religieuse. Il s'est exprimé, mais à différents niveaux et d'une façon qui était absolument catégorique. Donc il a pris position dans des campagnes qui étaient des campagnes envers des choses qui sont relativement plus récentes, comme par exemple l'autoroute qui devait passer au sud du lac de Neuchâtel et qui maintenant a laissé sa place à la Grande Carissaise, ce qui est quand même un résultat qui est positif pour la nature. Il a également pris position, par exemple, pour la défense du parc national au moment où il s'est agi de faire des prélèvements d'eau dans le parc national pour l'usine du Speul, sans avoir réussi, mais enfin on a remarqué la chose. Il a pris quelque chose à laquelle j'étais sensible quand j'étais petit, position contre le prélèvement d'eau dans la cascade de la Pisse-Lache. Et si ces prélèvements n'avaient pas eu lieu, vous verriez maintenant quelle cascade c'est, la Pisse-Lache. Ce serait des chutes du Rhin, comme ça, à portée de vue depuis l'autoroute, ce serait merveilleux. Il a pris position contre des choses beaucoup plus anciennes que peu se souviennent, par exemple le barrage hydroélectrique sur la London. Mais il s'est surtout exprimé tout au long de sa vie d'une façon philosophiquement, fondamentalement large sur sa vision justement de l'écologie en tant que couple indissociable entre l'homme et la nature.
Donc il disait que nous étions faits de la même pâte avec les animaux et les plantes. Et il préconisait aussi une juste ponction des ressources de la nature, c'est-à-dire pas en prendre plus que ce que l'homme peut avoir besoin. Ouais. Ce qui, au moment où l'économie se développait, ce qui ne plaisait probablement ni à gauche ni à droite.
Ah bon, c'est clair. Pensez aux années 40, quand il a commencé à publier, on souffrait à ce moment-là de la guerre et des atrocités qui se commettaient à cette époque-là. Dans l'après-guerre, le grand mouvement, c'était le retour à la paix, à la possibilité du progrès de l'homme. Et lui disait, ce progrès de l'homme ne doit pas aller plus loin, pas aller si loin qu'il n'y ait plus de nature sauvage. Faites ce que vous voulez, faites le mieux possible, mais tant qu'il restera de la nature sauvage à côté de vous, ça veut dire que vous faites bien. S'il n'y a plus de place pour la nature à côté de vous, c'est que vous êtes allé trop loin, vous êtes trompé, votre comportement n'est pas bien réglé. Ça ne le surprendrait pas s'il était encore de nos jours. Ce qui ne le surprendrait pas, c'est de voir que la nature reprend ses droits à peu près partout où on la laisse, parce qu'il a dit, la nature, je me suis fait beaucoup de soucis pour elle, mais au fond, j'ai tort, parce que c'est tout, c'est elle qui aura le dernier mot. Elle est plus forte que nous, c'est elle qui aura le dernier mot, ou plutôt celui qui ne sera jamais le dernier. Par contre, que l'activité humaine en vienne à renaturer des rivières, et que lui qui a souffert dans sa chair profondément, par exemple, de la correction du Rhône pour l'établissement du barrage de Verbois, il voit que maintenant on fait des efforts financiers importants pour renaturer des rivières comme la Sema, par exemple, d'autres ces rivières de ce genre, et bien alors ça lui montrerait que vraiment sa pensée est en route, elle va toujours pas aussi loin qu'il ne le voudrait et qu'il l'aurait souhaité, mais elle est en route et il s'en réjouit là où il est, certainement profondément, dans son paradis des grandes chasses. Tout ça, c'est une famille d'artistes dont nous ne sommes pas, n'est-ce pas ma sœur, ni toi ni moi.
Non, on a vu que c'était trop difficile d'être artiste. Ouais. En tout cas, pour moi, je ne m'y suis pas lancée par crainte de voir leur angoisse, de jamais atteindre à faire des choses aussi belles que les paysages qu'ils voyaient. J'ai essayé aussi de dire à mon père de ne pas se préoccuper de la nature, c'était beaucoup trop important et jamais il arriverait, il se faisait tellement de soucis. J'ai pas réussi, mais j'ai eu raison de pas réussir. En voulant revenir à cette exposition, c'était un cas assez spécial parce qu'on nous a dit on veut faire une exposition mais qui n'ait pas l'air d'une exposition Hénard, on veut faire autre chose. Et justement on en revient à ces mille métiers, mon père s'intéressait à tellement de choses qu'on n'a pas eu de peine à sortir des choses différentes qu'on n'avait pas l'habitude de montrer, aussi par exemple son cimetière que j'ai sorti avec un peu d'hésitation parce que c'était uniquement des portraits de bêtes mortes, mais qui n'avaient absolument pas le côté morbide qu'on pourrait y prêter, parce qu'il y avait une telle affection et un tel intérêt de voir enfin l'animal dans sa main, comment il était fait dans son intimité, comment les pattes bougeaient, comment les muscles pouvaient se changer, et tout ça est indiqué, et il y en a une preuve, c'est que dans chaque aquarelle, il indique où il a vu la bête, et qui lui a apporté, et comment elle est morte. Ça, c'est son côté scientifique aussi.
Merci Pierre Hénard, merci Marie Plouguenard.
genèveactive.ch.